Les gars, je ne voulais pas faire cette vidéo, mais je suis trop énervé et déprimé pour ne pas le faire. La semaine dernière, des agents masqués de l'ICE ont arrêté une étudiante diplômée de l'université TU alors qu'elle marchait dans la rue, puis l'ont envoyée dans un centre de détention en Louisiane, vraisemblablement pour être expulsée. Son crime était de soutenir le terrorisme en coécrivant une tribune dans le journal étudiant de TU appelant l'université à tenir Israël responsable de la violation du droit international dans sa guerre en cours. Cela fait suite à l'enlèvement d'un étudiant de l'université Columbia et résident permanent américain par l'ICE, également emmené dans un centre de détention en Louisiane pour avoir mené des actions de protestation sur le campus. Le même phénomène est arrivé à des étudiants étrangers dans des universités américaines. Et la réaction de ces universités, vous savez, soi-disant bastion de la pensée libre et critique, s'est avérée être de la lâcheté. La Colombie, par exemple, n'a pas voulu risquer de perdre 400 millions de dollars de financement public. En gros, ils ont laissé l'administration Trump dicter une série de nouvelles règles sur les libertés académiques et personnelles, qui rendent illégales des activités comme manifester et porter des masques, et peuvent entraîner l'exclusion d'étudiants, voire leur expulsion. Cela a conduit un professeur éminent de Columbia à demander que l'établissement soit toujours considéré comme une université. Des étudiants actuels de Columbia l'ont écrit dans une tribune récente. En un rien de temps, l'université a bafoué les protections essentielles de la liberté d'expression et de la liberté de recherche sur le campus. Les administrateurs de Columbia ont non seulement jugé inacceptables les actions pacifiques des étudiants, du personnel et des professeurs dissidents, mais ont également érigé toute forme de dissidence en délit d'opinion. Juste avant de commencer, Ed, qui filmait cette information, a annoncé que Harvard avait limogé deux professeurs qui dirigeaient son centre d'études moyen-oriental afin de calmer Trump et ses collègues. C'est donc formidable. Un comité de professeurs a déclaré, au vu des récents événements, que cette décision semblait être une tentative honteuse d'échapper aux sanctions de l'administration Trump pour avoir participé à des discussions académiques sur des sujets que le président désapprouve. Bravo, les gars, je ne vais pas édulcorer les choses. Je pense que nous devrions tous être absolument horrifiés que le gouvernement américain se contente de rassembler des étudiants étrangers et de les expulser, tout en fermant des centres de recherche universitaires et en réduisant le financement des universités, tout cela parce qu'ils défendent des idées et des idéaux qui ne correspondent pas à ceux de l'administration actuelle. Des étudiants et des universitaires sont désormais kidnappés, expulsés, terrorisés et subissent des conséquences professionnelles pour avoir fait exactement ce que les étudiants et les professeurs sont censés faire. La semaine dernière, Trump a également publié un autre décret. Il adore les décrets, alors j'aimerais bien en aimer un autant. Celui-ci est un appel à rétablir la vérité. Une folie pour les musées américains. Il est furieux contre des choses comme les musées qui prétendent que des sociétés, y compris les États-Unis, ont utilisé la race pour établir et maintenir des systèmes de pouvoir, de privilèges et de privation de droits. On a littéralement connu l'esclavage, les gars. Je veux dire, plein d'autres choses, mais l'esclavage, un sujet assez important, est aussi fou qu'une exposition prône l'idée que la race n'est pas une réalité biologique, mais une construction sociale, vous savez, parce qu'elle affirme que la race est une invention humaine, oui, ce qu'elle est, ce qu'elle est. Bon, je veux parler très rapidement des raisons de ce mouvement, et pourquoi c'est potentiellement bien pire et bien plus effrayant qu'on ne le pense. Je vais le faire avec l'aide du philosophe français Louis Alta. C'est un philosophe incroyablement important et un peu un méchant. L'un des grands intérêts d'Alta est la façon dont l'idéologie est utilisée pour construire le pouvoir politique et comment les idéologies se perpétuent dans notre société. Et pour lui, l'idéologie représente le rapport imaginaire des individus à leurs conditions d'existence réelles. Par exemple, sous le capitalisme américain, nous pourrions tous apprendre que faire des heures supplémentaires et se surpasser est une bonne chose, que cela nous permet de travailler en équipe. Cela forge notre caractère. Mais en réalité, ce récit nous permet simplement d'être exploités davantage par nos patrons pour gagner plus d'argent. Mais bon, au moins, nous pouvons cultiver un esprit de travail acharné. Or, ces idéologies, qui sont des systèmes de croyances, créent notre identité et nous poussent à nous soumettre au système de pouvoir. Ainsi, lorsque je participe à la culture du travail acharné, je reconnais que le capitalisme moderne est un système de pouvoir légitime auquel je suis prêt à me soumettre. Je suis même prêt à en faire partie pour le perpétuer. Alta pense qu'il existe des systèmes de pouvoir dans nos sociétés qui assurent la reproduction de ces idéologies dominantes. Il les appelle des appareils d'État idéologiques, et l'éducation est le principal appareil d'État idéologique qui remplace l'ancienne religion dominante. Or, l'éducation est si puissante pour reproduire l'idéologie parce qu'elle s'adresse à un public obligatoire et gratuit, composé de tous les enfants de la société capitaliste, 8 heures par jour, 5 jours sur 7. En gros, les membres de l'État doivent passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant environ 13 ans, à apprendre ce qui assure le pouvoir et la domination de l'État. Mais bien sûr, les écoles ne se présentent pas comme ça. Et comme tout bon appareil d'État idéologique, Alta souligne qu'elles savent parfaitement dissimuler leur véritable objectif. Le système éducatif a donc historiquement été présenté comme un environnement neutre, purgé de toute idéologie, où les enseignants ouvrent la voie à la liberté et à la moralité pour leurs élèves. Je trouve Alta un peu dur ici. Il écrit sur la France des années 60. Pour être juste, il parle bien de certains enseignants qui œuvrent au sein du système pour lutter contre l'idéologie dominante. Il les qualifie même de héros, ce qui est vrai. Bravo aux enseignants, j'espère que vous allez tous bien. Si des enseignants regardent ça, ça doit être vraiment dur. Vous faites une très bonne action pour pas cher. Et c'est fou que la société vous traite comme ça. Je ne te traiterai jamais comme ça, ma fille. Soyons clairs, je ne vais pas essayer de dire qu'avant Trump, tout allait bien dans l'éducation américaine et que ce n'est que maintenant que ces systèmes se transforment en appareils d'État idéologique. D'après mon expérience, l'école publique américaine a perpétué l'idée que ce pays est un endroit unique et que le système néolibéral est celui qui offre le plus d'opportunités et de progrès. Même si, sous ce modèle, on ne faisait que parler des notions de diversité, d'inclusion et de prise en compte du chaos de l'histoire américaine. J'ai fréquenté un lycée public en Floride à l'époque où on avait encore le droit d'enseigner des choses comme l'esclavage. Mais le plus terrible dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'il n'y a même pas la prétention d'un système libéral neutre. Aujourd'hui, les écoles ne devraient enseigner que ce que le gouvernement considère comme vrai, même si c'est en contradiction directe avec ce que les universitaires et les éducateurs ont jugé vrai. Et être en désaccord avec la conception de la vérité imposée par l'État ne vous donne pas seulement tort. Cela fait de vous un ennemi de l'État, voire un terroriste. Vous savez, le gouvernement ne fait pas dans la subtilité. Il scrute les recherches universitaires, les programmes de cours, les comptes de réseaux sociaux et toutes les autres ressources disponibles pour dresser sa liste d'ennemis idéologiques. Certains d'entre nous y figurent probablement. Et s'ils ciblent actuellement principalement les détenteurs de visas étrangers, ils vont certainement élargir leur cible aux étudiants et universitaires citoyens américains, qui seront sans doute les prochains sur la liste. Alors, que faire maintenant? Sérieusement, que faire? Dites-le-moi, si quelqu'un sait ce que nous faisons, qu'il me le dise. Que faire? Bougez. Tout ce que je sais, c'est que si vous êtes universitaire ou enseignant, efforcez-vous de faire preuve de courage et d'être solidaire de vos étudiants et collègues menacés, et faites tout votre possible pour vous mettre entre eux et les agents. Et si vous êtes étudiant et que vous avez des camarades de classe et des collègues avec des visas étrangers qui pourraient être en danger, formez une communauté autour d'eux. Laissez-les squatter votre chambre. Ne les laissez pas se promener seuls. Faites tout ce qu'il faut pour les protéger et assurer leur sécurité. Et les amis, avez-vous des idées ou des ressources sur ce que nous devrions faire? N'hésitez pas à les partager, ce serait génial. Désolé, celle-ci n'est pas aussi réussie que d'habitude. Je l'ai faite rapidement. Abonnez-vous, aimez, commentez, ce genre de choses. Et surtout, restez prudents et restez sains d'esprit. Oh, et au cas où le gouvernement regarderait ça, c'est une chaîne parodique. Je suis vraiment un provocateur d'extrême droite et je me comporte juste comme un libéral idiot en ce moment. Rien de tout ça n'est du vrai USA, TGI Fridays, Limp Biscuit, ce genre de choses.